Bonjour, mesdames.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là parce que la clinique Saccade, on le sait, est située à Québec. Mais bon, vous étiez dans le coin, donc on vous a pris au vol et on est très content de vous recevoir. Il paraît que dans la clinique Saccade à Québec, il n'y a absolument rien qui a été laissé au hasard. La couleur sur les murs, les poignées de porte, les éclairages, les tapis. Pourquoi tant de soucis accordés à des détails? En tout cas, du moins pour nous, ça semble être des détails.
Oui, effectivement, ça peut sembler un petit peu farfelu par rapport à tous ces éléments-là, mais pour nous, la clinique, elle est là d'abord pour la personne autiste de 0 à 100 ans. Mm-hmm. Alors, peu importe son âge, ce qu'on veut, c'est quand elle vient chercher des services, qu'elle puisse être dans une disponibilité, finalement, pour être aidée à son maximum.
Oui. Et en lui évitant d'être anxieuse ou encore d'être déstabilisée par des choses qui, nous, ça ne nous apparaît pas déstabilisant, mais ça l'est pour les personnes autistes.
Oui, parce que c'est justement ce contrôle-là par rapport à toute l'information qui est à l'extérieur, qui est compliquée pour eux à pouvoir gérer. Alors, si nous, on pouvait leur donner un coup de main en gérant tout ce qui est de l'extérieur, comme ça, de l'environnement, il nous reste à les aider pour faire le travail à l'intérieur sur ce dont ils ont besoin.
Qu'est-ce qui distingue la méthode Saccade? Oui, c'est que vous utilisez une méthode qui est développementale, j'espère le dire comme il faut, quand souvent on utilise une méthode qui serait comportementale. Est-ce qu'on peut vulgariser ça afin de mieux comprendre qu'est-ce que ça signifie? Brigitte?
L'autisme, c'est d'abord neurodéveloppemental. C'est un trouble neurodéveloppemental. Ça veut dire que c'est un trouble qui affecte d'abord le développement du cerveau, le développement des systèmes nerveux. Et c'est jusqu'à date, c'est comme ça que c'est défini dans la littérature. Alors la réponse, après 70 ans d'essais de toutes sortes, on a compris que la réponse devrait se situer dans le secteur neurodéveloppemental aussi.
Mm-hmm. Mm-hmm. Vous connaissez toutes les deux depuis 2003. Grosso modo, vous avez amorcé une première clinique en 2006. Saccade, c'est tout jeune, c'est tout nouveau, là. Ça existe depuis février 2015. Ensemble, comment vous avez construit cette méthode-là?
Disons que depuis 2003 jusqu'à 2015, on avait commencé à travailler ensemble. On avait construit, dans le fond, la clinique, les services de concept consultaine, dont en février, on a changé de nom pour Saccade. Et à partir de ce moment-là, on était déjà installés dans un petit endroit tout petit pour commencer à donner des services, mais c'était à très petite échelle. Et depuis mars 2015, on a fait le choix et de s'installer dans un endroit qui était beaucoup plus vaste, avec lequel on pouvait offrir beaucoup plus de services qui allaient couvrir tout le parcours de vie de la personne 0-100 ans qui était autiste, peu importe son degré d'atteinte.
Et je pense que vous travaillez avec plein d'autres spécialistes de la santé.
Beaucoup de professionnels avec nous, que ce soit au niveau des médecins, des neuropsychologues, psychologues, éducateurs, orthopédagogie, profs de français, profs de maths, bref, toutes les personnes dont la personne autiste peut avoir besoin dans son parcours de vie, tout professionnel dont elle pourrait avoir besoin, à ce moment-là, va pouvoir retrouver les services chez nous dans la langue autistique. C'est ce qui est un peu unique chez nous par rapport
C'est quoi la langue autistique?
L'autisme, il faut voir ça, ça avait été dit quand l'Université de Montréal avait sorti son modèle. Dr. Motron en avait parlé, mais ça faisait un bon bout de temps que ça circulait. On en parlait en formation de façon régulière parce qu'on fait beaucoup de formation depuis 2004. Et l'autisme doit être, la façon dont ça se comporte, ça ressemble à de la surdité ou de la cécité.
Ah oui.
Lui il disait comme si la personne souffrait d'une privation sensorielle. C'est un peu ça. T'es aveugle social. C'est un peu ce que ça fait.
Ou sourd social.
Oui, ça pourrait. Et à partir de ce moment-là, quand on regarde le fonctionnement des personnes aveugles ou sourdes, si je prends les personnes sourdes qui ont une langue des signes, nous, en autisme, pour compléter le passage du visuel au verbal, à la pensée verbale, ça prend ce qu'on appelle un langage conceptuel. Mm-hmm. Et à partir de ce moment-là, c'est notre outil de rémédiation cognitive au bureau, à la clinique. C'est le point central de Saccade. C'est une langue qu'on espère qu'il deviendra une langue. Pour l'instant, c'est un langage. Et qui est à base, au lieu d'avoir les deux mains pour faire des signes, c'est un code écrit graphique avec crayon papier d'abord, qui passe de dessin très concret, qui passe de dessin concret jusqu'à des signes.
Okay.
Et c'est évolutif.
Et c'est une façon d'entrer en contact avec la personne autiste.
C'est une façon pour la personne autiste d'avoir accès à son information. Et oui, ça prend des gens de l'extérieur pour amener la personne autiste à le faire, c'est certain. La réponse arrive de d'une autre personne, ça c'est clair. Mais oui, les gens peuvent entrer en contact avec les autistes, un peu comme certains vous ont déjà décrit. Mais le bout de la chaîne n'est pas que les gens entrent en contact avec les autistes, mais bien que les autistes s'approprient leur information pour entrer en contact mm-hmm. avec le monde.
Mm-hmm.
Après ça, ils rentreront en contact avec qui ils veulent.
Bien sûr. Le langage conceptuel, est-ce que ça peut aider même un autiste qui serait non-verbal?
Il n'y a pas d'âge pour le langage conceptuel. Hein. C'est vraiment, quand on dit le langage, quand on compare avec la surdité, il n'y a pas d'âge pour cette communication-là. Alors que ce soit une personne qui soit non-verbale jusqu'à un adulte de 50 ans professionnel TSA, le langage conceptuel va lui être bénéfique à tout prix.
Mm-hmm.
À tout prix.
Quand
ouais.
tu t'occupes de l'autiste, tu ne sélectionnes pas tes autistes, tu t'occupes de l'autisme.
Mm-hmm.
N'importe quel âge, n'importe quel degré d'atteinte, avec ou sans trouble associé, tu vas aller chercher le noyau autistique.
Kim Thuy, qui est votre ambassadrice, qui vous a consulté pour son fils qui a 13 ans, dit que grâce à votre contact, maintenant, elle arrive à comprendre son fils. Elle dit à 95% là, parce que ça demeure quand même un ado. Donc, un ado, c'est difficile à comprendre là, par définition. Bon, je donne cet exemple-là, mais il pourrait en avoir bien d'autres. Qu'est-ce qui fait qu'on peut finalement arriver à comprendre? Est-ce que vous avez des exemples très concrets?
À comprendre.
Bien, je ne sais pas, un autiste qu'on n'arriverait pas à comprendre, qui voudrait signifier quelque chose, qui voudrait s'exprimer ouais. d'une certaine façon, on n'arriverait pas à saisir et le langage conceptuel nous donne ces clés-là.
Un autiste, c'est quelqu'un qui parle le même langage sonore que vous, mais pas le même langage conceptuel.
Mm-hmm.
Alors, quand le travail est fait, on a replacé l'organisation cognitive pour les concepts. Alors, il s'exprime mieux. Donc, la personne en avant comprend mieux.
Mm-hmm.
Je peux peut-être juste donner un exemple. Souvent, les gens vont comme voir l'autisme, quand on parlait tantôt comportemental versus développemental. Quand on est en comportemental, les gens vont d'abord observer ce qu'ils voient de l'extérieur et l'interpréter selon leur compréhension à eux. Ce qui est distinct chez nous, c'est que quand Brigitte est arrivée avec la description du fonctionnement interne, elle est venue donner un sens à tous ces éléments-là qu'on pouvait percevoir de l'extérieur et on leur a donné un sens de l'intérieur, ce que ça signifie. Alors, des fois, on prend l'exemple du battement des ailes ou les petits bras qui bougent de chaque côté et les gens vont dire à ce moment-là, « Ah, il fait comme ça, on va l'arrêter de battre des mains comme ça parce que ça fait autiste.
Ouais, » ouais,
Là,
ouais,
on
ouais.
travaille en mm-hmm. comportemental quand on est comme ça. La différence chez nous, quand on va voir l'enfant qui va bouger les bras ou l'adulte qui va bouger les bras, on va se dire, « Ah! » Et voilà, il est rendu à tel niveau dans son stade de développement de sa structure autistique. Et maintenant, comment je peux faire pour l'accompagner, pour passer à une autre étape sans l'interdire de faire ces gestes-là?
Mm-hmm.
Alors, c'est un peu cette compréhension-là. Je pense que quand Kim y fait référence, on est venu donner un sens à ce que le parent peut percevoir de l'extérieur avec plus ou moins de réponses qui sont cohérentes. Donc, on est allé donner le sens de l'intérieur. Et ensuite, on accompagne pour dire, bien, et voilà, maintenant, à partir de ça, c'est OK. Maintenant, voici la prochaine étape de travail à faire avec votre enfant.
Mm-hmm.
Non seulement le tableau pour le parent devient plus clair, mais en plus, l'autiste devient de plus en plus compréhensible.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Donc,
Brigitte, vous vivez vous-même avec un trouble du spectre de l'autisme. Ça a été diagnostiqué assez tard, là, mi-trentaine à peu près. Évidemment, j'imagine que votre parcours, votre vécu, ça amène un gros plus à la méthode SACAD.
Oui. Oui, parce que moi, j'ai été rapidement, on m'a demandé d'écrire, j'étais déjà en intervention. J'ai un métier d'intervention, ce qui fait que on m'a demandé d'écrire comment je fonctionnais. À l'époque, c'était dans les années 90, Grandin venait d'arriver et les gens venaient de comprendre qu'il y avait des autistes adultes qui étaient capables de s'exprimer.
Oui.
Fait qu'à partir de là, on m'a demandé d'écrire sur le fonctionnement autistique. Ça a été fait. Je l'ai fait. J'ai d'abord écrit un premier manuscrit, puis après ça, ça a été beaucoup plus loin. C'est ce qui est la base de l'ensemble des, des formations, des conférences que j'ai données depuis 2003-2004, ça a explosé. Et ça a permis aux gens de comprendre de mieux en mieux. Moi, je n'ai pas besoin de fouiller. Quand on me pose une question, j'ai besoin que d'aller chercher maintenant dans mes références pour, depuis que j'ai fait le boulot là, dans les années 90 pour moi. J'ai besoin seulement d'aller chercher les références pour donner la réponse. Et souvent, les gens me disaient, ben on te pose une question à l'est, puis tu réponds à l'ouest, parce que c'est pas ce que les gens s'attendent comme interprétation, exactement ce que Lise vient de décrire. Ça fait que l'expérience sert, tant mieux. C'est mm-hmm. pour ça que je suis sortie d'ailleurs. On m'a demandé que ça serve. Ça fait que c'est ce que je fais.
C'est à partir de cette description-là qu'on est allé mettre en place finalement ce qu'il y avait à faire comme travail après.
Mm-hmm. Oui. On est parti du fonctionnement interne qui a ciblé les besoins parce qu'il n'existe aucune description des besoins autistiques au moment où on se parle. Alors, c'est dur de répondre aux besoins quand tu ne les as même pas dans la science. Ce qui fait qu'on est parti du fonctionnement interne. On a regardé aussi chez les autres autistes. Et on a sorti les besoins qui se sont précisés avec le temps. Et à ce moment-là, les gens demandaient dans les salles de formation d'avoir des moyens, d'avoir des façons de faire. Et on les donnait à gauche et à droite. Et à un moment donné, on s'est dit, on va le structurer. Mm-hmm. C'est ce qui a fait sa carte.
Et c'est quoi les besoins que vous avez ressortis?
Pour être simple, c'est organisation cognitive. Il faut replacer toute la section conceptuelle pour arriver à ce que la personne puisse faire des liens, s'en servir en temps réel et que ça puisse affecter le développement, l'équilibrer en tout cas. Là. Ça, c'est clair.
Mm-hmm. On le disait avant que l'émission débute, là, à micro fermé. Oui, l'autisme, c'est préoccupant parce qu'on a l'impression que les cas ne cessent d'augmenter. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il y a de préoccupant aussi, c'est qu'on a l'impression de pas toujours avoir la bonne information. Mmh. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui circulent, ouais. Mais on fait comment pour faire le ménage là-dedans? Parce que j'imagine que parfois, les familles que vous rencontrez au sein de SACAD arrivent un petit peu démunies parce qu'ils savent plus trop là, à quel sein se vouer. Comment on recadre tout ça et qu'on arrive à fournir de l'information qui est claire, qui est véridique?
Faut connaître la littérature. Faut lire le plus possible dans les différents secteurs. Des 2-3 000 textes à lire dans quelques années, ça existe. Là. On n'a pas le choix. Il faut lire à tous les jours. Et il faut tenir compte de l'ensemble de la littérature, y compris ce que les autistes disent.
Oui. Mm-hmm.
Parce que pendant 70 ans, il y a été question d'observation extérieure. On comprend, c'était comme ça, les gens se débrouillaient comme ils pouvaient. Maintenant, on a des nouvelles sur comment le cerveau fonctionne. On n'a pas encore toute la description autistique. On a des zones qui commencent à être de plus en plus claires. Et, tu sais, c'est un début, là. C'est pas rendu loin. Mais il faut se servir de ce qu'on comprend de ça, de comment les personnes autistes l'analysent et comment on peut... tu sais, quand tu fais une intervention, il y a un résultat qui est supposé arriver. Mm-hmm. Et c'est au niveau du résultat qu'il faut que les gens... Puis bien souvent, les gens oublient les bases mêmes de l'intervention. Tu sais, un enfant qui est médicamenté depuis un an, mais il n'y a pas d'effet, le médecin devrait le savoir. Il ne sait pas parce que personne n'en parle. Oui. Fait qu'il y a des bases comme ça qu'on a dans... On a tous appris ça. Il y a d'autres secteurs d'intervention où il faut surveiller des choses, mais on dirait que les gens en autisme, ils ont les bras pleins. Fait qu'ils n'arrivent pas à surveiller. Fait qu'il faut que tu considères toute la littérature, l'expérience des gens sur le terrain, faut que tu considères aussi ce que les autistes disent.
Oui. Mais encore faut-il pouvoir les entendre, qu'ils aient un certain micro, une certaine portée à quelque part. On n'en voit pas tant que ça, Bridget Harrison, des personnes autistes s'exprimer dans les médias.
Non. On n'en voit pas tant que ça des personnes autistes s'exprimer dans les médias parce que quand tu parles, souvent, tu n'es pas pris au sérieux ou tu vas... Puis moi, j'ai toujours dit, je ne vais pas... Je ne vais pas discuter là-dessus. Ça coûte trop cher d'énergie. Mm-hmm. Alors, ce qu'on va faire, on va apporter des résultats.
Ouais.
C'est comme ça qu'on va y aller. Puis qu'après ça, on regardera qui avance, c'est tout. Ouais. Et pour être un autiste dans les médias... Nous, on n'est pas de... Quand tu es autiste, t'as pas la notion de mensonge, de manipulation. Ça fait que souvent, les personnes autistes qui essayent de sortir, ils rentrent très rapidement parce que c'est trop compliqué.
Ouais, ouais.
Ça fait que moi, je suis entourée, ça fait longtemps, c'est pas pareil. Ouais.
Vous êtes entourée ici par Lise, qui semble être un bon pilier aussi. Justement, on en parle énormément des résultats. Le temps file, j'aimerais ça les entendre. C'est quoi les résultats du côté de la clinique Sacane?
Les résultats qu'on obtient sont concrets, peu importe encore l'âge, peu importe le degré d'atteinte, on le répète, la baisse d'anxiété. Hein? On va voir ça beaucoup, beaucoup quand on voit nos... surtout sur nos... C'est ceux qui sont, on dira, d'autisme de plus haut niveau qui fonctionnent à travers le système. C'est l'anxiété qui s'installe habituellement, difficile à gérer. Baisse d'anxiété, baisse des troubles de comportement. On entend malheureusement beaucoup ça en 2015, beaucoup plus de troubles de comportement qui s'installent, puis c'est pas normal, ça devrait pas être là non plus. On va avoir l'interaction qui va s'installer, la communication qui va s'installer.
Baisse des crises.
Baisse des crises.
Baisse de l'écolalie. Augmentation de l'interaction, la réciprocité qui apparaît dans la majorité des cas. Et on ne peut pas encore être validé parce qu'on ne travaille même pas sur les mêmes besoins.
Oui.
Fait que c'est, tu peux pas aller là après 8 ans d'existence. Là.
La disponibilité à l'apprentissage, donc peu
importe. Oui, ils arrivent à apprendre.
Ils arrivent à apprendre à ce moment-là.
Ils ont accès aux connaissances, à l'éducation.
Oui.
On le voit, là. Et les gens, puis on n'est pas juste au Québec. Hein. Les gens avec qui on travaille en France ont les mêmes résultats que nous ici.
Mm-hmm.
Alors, ça se transmet en plus comme information. On est capable de transmettre en plus.
J'aurais aimé pouvoir aborder plein d'autres trucs avec vous. Évidemment, le temps nous fait la guerre. Sacade.ca, pour en savoir davantage, vous êtes à Québec. Est-ce que vous pensez faire des petits un petit peu partout?
Ça nous est demandé, mais bon, on va commencer par commencer. On est Québec pour l'instant, la ville de Québec. Mais comme on dit aux gens, on n'est pas en Californie, on est très près par l'autoroute 20. 2h30 de route et on est rendu.
Brigitte Harrison, Lise Saint-Charles, fondatrice de la clinique Sacade, ça a été un plaisir, peut-être un peu trop rapide, mais on saura se reparler bientôt.
Merci.
Merci.